C'était une chanson qui a eu beaucoup de succès, qui a été traduite en français. La version italienne, c'est Monasterio a Santa Chiara, qui s'est appelé en français Monastère de Santa Chiara. Et je trouve que Paolo Fresu déploie une grande sensibilité, un excellent musicien.
Mmh. Mais le pianiste est tout à fait remarquable, l'accompagnement derrière.
Franco d'Andrea.
Franco d'Andrea. Ah,
très très beau.
Ce qui fait que les successeurs des musiciens qu'on a évoqués ont vraiment une grande envergure. Et aujourd'hui, le jazz italien a une place, je dirais pas dominante, mais tout à fait confortable sur le...
Pendant que le disque, excusez-moi, je vous interromps, pendant que le disque passait, j'ai eu un rêve tout à coup. Je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas un jour une histoire du jazz en France, évidemment, du jazz en Allemagne, du jazz en Suède, du jazz en Angleterre, en Pologne, s'il vous plaît. Et tout ça en langue française, pour un jour, n'est-ce pas, peut-être dans un demi-siècle, un livre sur l'histoire du jazz européen. Et moi, je rêve d'une chose absolument incroyable, c'est qu'on pourrait revoir l'histoire du jazz à l'image des informations sur Papa Jacqueline que vous venez d'apprendre. Vous venez de nous apprendre qu'il était d'origine italienne. Et peut-être qu'on aurait une vision de cette musique, George, complètement différente. Peut-être.
Ce que vous dites, Georges, là, je viens de le lire il y a très peu de temps, dans la revue, dans le dernier numéro des Cahiers du Jazz, où Laurent Cugny vient de dire à peu près, à écrire à peu près ce que vous venez de dire.
Eh bien, je l'ignorais.
Cela dit, ne nous voilons pas la face. Hélas, l'information concernant le jazz continue de mal circuler entre l'Italie et la France. Et j'en veux pour preuve que nous saluons en France, avec raison, me semble-t-il, le talent extrême de deux jeunes altistes, Stefano Di Battista et Rosario Giuliani. Mais ces artistes, l'approche de ces artistes-là et de ces altistes-là ne s'explique que parce qu'ils avaient entendu un musicien italien formidable qui s'appelle Massimo Urbani et que l'on connaît très très peu ici.
Qu'on ne connaît pas du tout.
Même si Adriano Mazzoletti a écrit dans le dictionnaire du jazz Lafon, dont André est un des trois maîtres d'œuvre, qu'il s'agissait d'un des piliers du jazz italien moderne, qui était un homme d'excès dans sa vie, mais un homme de flamboyance dans sa musique.
Alors comment expliquez-vous ça, André et Alain, cette situation? Pourquoi ça circule mal? Pourquoi les choses circule mal alors qu'on est à côté? Vous n'allez pas me faire croire que c'est les montagnes, c'est pas les Alpes qui font ça.
Il y a une explication, c'est que le dénommé Massimo Urbani est mort il y a déjà pas mal de temps. Mm-hmm. Alain a parlé des excès, il en est mort. Mm-hmm. Donc on ne peut pas reprocher aux Français de ne pas l'avoir connu puisqu'il est décédé il y a 10 ans, 15 ans.
Et, on aurait pu le connaître à l'époque.
Oui.
Donc, c'est un de ces musiciens qui s'exprime. Enfin, un musicien irrépressible, disons. Bon, c'est
John Sorman, en Angleterre, il s'est fait connaître assez rapidement, quand même, si on parle de Garbarek, qui s'est fait quand même connaître aussi. Vous voyez, les musiciens européens qui se sont fait connaître assez rapidement, quand même, sur la scène européenne.
Oui, mais ECM est un label, certes allemand, mais qui, en fait, avait une dimension universelle par sa distribution.
Oui, oui.
Mais il est certain que en Italie, durant ces années 20 et 30, les rares musiciens qui effectuaient des tournées, car il y en avait tout de même, la qualité des musiciens de bal ou qu'ils rencontraient ne leur avait pas échappé. Et j'en voudrais pour preuve ce qu'a dit Eddie South quand il jouait à Venise, dans un endroit que Alain connaît bien, je crois, c'est l'Albergo Luna. À l'Albergo Luna jouait ce violoniste Eddie South et il a écrit « Ces jeunes Italiens ont tellement bien assimilé le jazz que leurs orchestres sont devenus aussi bons que les meilleurs Américains ». Ça, c'était à la fin des années 20. Donc il avait bien pris conscience.
Il devait d'autant plus frapper que lui avait une approche, disons, plutôt européaniste. Oui. Si on la compare à celle de Steve Smith,
ou
même de Giovenuti, qui pouvait être un enragé. Hein. D'ailleurs, dans la plupart de ses disques, on fait allusion à la fureur, à la folie.
Donc dans cette descendance des musiciens italiens, je crois qu'on peut écouter un autre exemple. Moi, je vous proposerai de jeter un coup d'oreille sur Stefano Di Battista que vous venez d'évoquer, Alain, qui joue avec Flavio Boltro, qui est le trompettiste. Un enregistrement qui date de 1997, qui s'appelle Blues for Michel. Je précise que le pianiste s'appelle Eric Lenini.
Oui, il est remarquable aussi. Je crois qu'il est basé en Belgique maintenant, non?
Oui.
Il semble.
Oui. Le contrebassiste, c'est Rosario Bonaccorso, et il y a un Français qui joue de la batterie, c'est Benjamin Enoch.
Blues for Michel à Amiens en juillet 1997, entourant le batteur français Benjamin Enoch. Il y avait là Flavio Boltro à la trompette, Stefano Di Battista au saxophone alto, Eric Lenini au piano et Rosario Bonaccorso à la contrebasse. Si l'on veut citer un personnage qui a été et qui est toujours extrêmement important concernant l'influence du jazz italien en dehors des frontières de ce pays, il faut, me semble-t-il, bien sûr, mettre sur la table le nom d'Enrico Pieranunzi, qui est peut-être un des plus grands pianistes actuellement en activité. Exactement. Et puis, en écoutant tout cela, je réfléchissais à une chose qui m'apparaît comme un... peut-être pas un paradoxe, mais enfin un fait assez saisissant, c'est que l'actuel succès du jazz italien en dehors des frontières italiennes vient précisément du fait que c'est un jazz qui maintenant est souvent très solidement attaché à ses racines. Alors, dans le cas d'Aldo Romano, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, à la canzonetta, hein, et dans le cas d'un autre musicien qui mériterait d'ailleurs à lui seul une émission, le trompettiste Enrico Rava, à la fois, si l'on s'en tient à ses productions phonographiques, aux orchestres de village qui ont énormément compté en Italie, comme ont compté en France les Orphéons de la région du Nord,
Pas-de-Calais,
voilà, qui ont donné je ne sais combien de grands musiciens de jazz, musiciens
qui se sont formés dans ces fanfares, effectivement.
Oui, oui. Ou, j'en reviens à Rava, quand ce n'était pas les orchestres de village, eh bien c'était l'opéra, hein, parce qu'à plusieurs reprises, il s'est inspiré des grands opéras italiens.
Il y a un très bel exemple, il a consacré un album à des pièces opératiques. On va en écouter une, si vous voulez bien. Ce sera un extrait de Puccini, de la Tosca. Le plus connu, peut-être, E luceva nelle stelle, en français, le ciel luisait d'étoiles, c'est le lamento de Mario.